vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Je me demandais en préparant cette émission ce que c'est vraiment la musique. Est-ce que c'est juste un bruit qu'on organise pour se sentir moins seul? Ou un langage plus ancien que les mots, plus entêtant que nos certitudes? On dit qu'elle relie, qu'elle console, qu'elle agite, mais peut-être qu'elle fait tout ça à la fois, elle nous déborde. Et puis, il y a ceux qui jouent, ceux qui transmettent, ceux qui passent le relais. Voilà, on va parler aujourd'hui de passeurs. Ceux qui vous mettent une guitare dans les mains, un micro devant la bouche et qui vous disent « Vas-y, raconte, même si t'es pas sûr, même si ça sonne faux au début ». Aujourd'hui, pour la dernière agitée du local de la saison, j'avais envie de ça. De tendre l'oreille à quelqu'un qui, depuis plus de 30 ans, fait battre le cœur des salles, des studios et des histoires pour qu'on ne les oublie pas. Et c'est David Tessier qui est avec nous, alias Tess. C'est un musicien, un prof, un type qui sait que derrière chaque accord, il y a toujours un petit morceau de vérité ou juste un prétexte pour continuer à rêver ensemble, à ressentir. Oui, c'est bien le grand format de votre émission quotidienne qui commence.
Bah tu écoutes quoi là ?
Chut ! C'est la JT du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio.
On dit qu'il y a ceux qui partagent la musique et d'autres qui la rendent possible. Chez les autres, David, toi, tu fais un peu les deux depuis plus de 30 ans. Je le disais, tu accompagnes, tu enseignes, tu joues, tu encourages. Mais après tous les mots que moi, je pose sur toi, comment toi, tu te présenterais avec les tiens?
Et à 30 ans, tout à l'heure, dans la présentation qui me fait un peu mal. Mais voilà, je prends et j'assume. Moi, je suis citoyen du monde libre, musicien et amoureux de la musique. Tout bêtement, tout court, quelle qu'elle soit. À partir du moment où elle apporte du bonheur.
Si tu devais raconter ton tout premier souvenir lié à la musique, ce serait lequel?
Premier souvenir.
On remonte encore plus.
Ouais, c'est. Premier souvenir lié à la musique, c'est ma raquette de tennis, ma salle de bain et ACDC. Et des torticolis le lendemain.
C'était à quel âge?
J'avais 13-14 ans. Je comprenais pas tout, mais c'est. Je pense que j'avais capté le principal, c'est l'énergie du groupe. Et. Mais je kiffe toujours ACDC de façon assez intensive. Et ouais, mon premier souvenir, ça pourrait être ça, ouais. C'était des vibrations pas assumées intellectuellement, je veux dire. Voilà, je ne comprenais pas le hard rock, heavy metal, tout ça. Non, c'était juste de la sensation forte, quoi. Et je suis assez amoureux des sensations dites fortes.
Cette musique-là, c'est une musique qui s'écoutait chez toi quand tu étais enfant?
Non, du tout. Mon père écoutait des valses autrichiennes. Ma mère avait ramené d'Angleterre un 45 tours d'Elvis Presley quand même, que j'ai bien massacré en laissant au soleil sur mon manche d'X. Donc j'ai ruiné le 45 tours. Je me mettrais bien des gifles si j'étais de retour et je m'avais en face là, mais non, pas plus que ça. Ouais, après c'est au hasard des rencontres. Moi les intensités, je les ai d'abord chopées dans le sport, avec le football, le handball. Et voilà, on jouait avec du public et tout, et voilà, et puis j'ai fait une rencontre, c'est Nazim Moknashi qui était guitariste des Blue Valentines, un groupe à la grande époque, qui m'a ramené chez lui un coup, il m'a dit « Tess, viens boire un café », voilà, on a bien un café, puis il m'a fait écouter les Ramones, les Dead Beats, AC/DC, Elvis Presley, et là il y a eu un petit étincelle là. J'ai troqué le survêt pour les Santiago,
et
de
alors,
façon résumée.
C'est ça qui t'a donné envie, à ce moment-là, de prendre la batterie, de faire du bruit avec d'autres?
Ouais, je ne savais pas encore que la batterie, ça allait être mon instrument de prédilection, mais je suis allé à une répétition, justement, des Blue Valentine's, et il s'est avéré que j'arrivais à faire des trucs comme ça, un petit peu instantanément, sans trop comprendre. J'avais eu leur batteur jouer, j'ai singé un petit peu, puis ça venait assez rapidement, en fin de compte, donc j'avais des... Il y avait des bonnes bases.
Parce que je crois que tu n'as jamais suivi de cours de solfège. C'était pas ton truc.
De batterie, non. Ouais, j'ai pris un cours de batterie puis je suis parti en courant. Ouais. C'est voilà, le principe des partitions, de se retrouver en cloqué dans un carcan, ça me faisait bien chier à l'époque. Ouais. Et donc non. Si par contre j'ai travaillé énormément la caisse claire. Ça, j'ai travaillé à l'école de musique pendant 2 ans la caisse claire avec feu Michel Massé, qui était mon mentor en caisse claire et vu que je m'étais un peu corsé de l'école en sauvage, en mode sauvage, j'étais allé le voir, j'ai dit donne-moi pour 5-6 heures de taf par jour. Quoi. Et donc j'ai énormément travaillé la caisse claire avec son solfège, avec toutes les nuances, possible, inimaginable, et que j'ai, je pense, retransmis sur mon jeu de batterie derrière. Et ce qui fait que ça permet vraiment énormément de nuances. Et voilà, la nuance, c'est le mot-clé pour moi en musique, quoi. Le calme avant la tempête, etc., etc.
Est-ce que tu te souviens du premier groupe que tu as monté ou rejoint? Et quelle était l'énergie de ce moment-là? Le tout premier?
On s'appelait les Fleurs, The Flowers, les Fleurs. On était habillés tout en noir. On était les rois du monde. On allait tout défoncer. Bon, on était un petit peu aussi défoncés. Voilà, on va passer vite fait sur le sujet. Et voilà, c'est des... On reprenait Hip Hop, les Stooges, avec beaucoup de compos déjà. Et on cherchait des choses. Et voilà, quand je dis qu'on était les rois du monde, c'est... On a fait ça pendant 2 ans quand même. Ouais. 2 ans, on est enfermé dans une cave, à jouer, à rêver. Et puis le premier concert, ça te met vite les pieds sur terre après. Ah oui, d'accord. Donc voilà, et puis à partir de là, tout est parti, quoi.
C'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu avais envie d'en vivre et que ce soit finalement à ça que tu occupes
alors dans, tes journées. D'en vivre, pas forcément, j'étais môme, ouais, j'avais 16 ans, donc d'en vivre, non, mais d'en croquer un maximum à l'époque, ouais, c'était vraiment la sensation forte, il y en avait aussi, bien sûr. Concert, rapport avec le public, track, scène, etc. Et donc d'en vivre, non, pas à l'époque. Mais ouais, de me prendre des bonnes branlées émotionnelles, ouais, c'est ce qu'on recherchait à l'époque, quoi. Avec la musique et autres. Et donc, voilà.
Désolé. Non, t'inquiète absolument pas. Et le style musical que tu aimais à ce moment-là, du coup, l'énergie que t'aimais transmettre sur scène et celle que toi, tu aimais écouter, c'était...
Le punk. Mmh. Le punk dans vraiment son aspect... do it yourself, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, comme on voulait, à la forme où on voulait, et on emmerdait ceux que ça dérangeait, quoi. Et ça, j'ai toujours gardé ça. Et j'ai toujours transmis ça aux gens à qui je bosse, qui, tout style confondu, qui créent, j'ai fait votre musique, et si vous y mettez du cœur, et de l'énergie, et de la passion, il arrivera des choses à divers degrés, mais ouais, comme je dis souvent, c'est un peu vulgaire, mais ouais, emmerdez ceux que ça dérange, ouais. C'est, voilà, on s'en fout, faites ça pour vous. Ça peut aller de la petite fille qui prépare son morceau de piano pour jouer devant sa grand-mère à un groupe qui veut faire un festival, etc., etc., quoi. Mais voilà, de le faire de façon intensive et passionnée surtout.
Justement, on y vient, une grande partie de ta vie jusqu'ici, tu l'as occupée à la transmission. Quand est-ce que ça a commencé entre ce que toi tu vivais de manière intérieure et à un moment te dire j'ai envie de le partager et de transmettre
Ça a été une émotion très très forte aussi, j'ai un souvenir très précis de ça. J'ai bossé avec les mômes d'un pote qui me disait « ouais, j'ai mes gamins qui font du rock ». Bon, j'en faisais déjà depuis 7-8 ans, donc... Il me dit, tu veux pas passer leur filer un petit coup de main? Je suis allé les voir juste en mode, voilà, c'est les fils de mon pote, quoi. Et puis je me prends au jeu. Surélève ton ampli, mets moins de disto. Là, tu devrais t'arrêter là, puis reprendre là. On passe une après-midi, mais juste de ouf, quoi. C'est-à-dire, je me prends une calotte. Je kiffe, je surkiffe. Les mômes kiffent aussi, parce que du coup, je leur file un petit peu du peu d'expérience que j'avais. Et là, ça refait ch'ting au niveau étincelle. J'ai dit, waouh, c'est bien ça. C'est pas mal ça, et pourquoi pas faire ça avec tous ceux qu'on a envie, quoi. Et puis c'est parti, tout est parti de là en fin de compte. Et Maxime Dubreuil, tous ces jeunes là, c'était une tuerie, quoi. Parce que là, du coup, il y avait vraiment une révélation, c'était la notion d'accompagner des jeunes en leur parlant le même langage qu'eux, en fin de compte. Il n'y avait pas de partition, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour les partitions et le langage universel de la musique, on est d'accord, mais là, eux, ça ne les intéressait pas, quoi. Donc l'idée, c'était de trouver un chemin parallèle pour arriver au même résultat, entre guillemets, qu'une musique écrite, mais avec nos mots à nous et nos structures. Donc on a carrément inventé nos langages, quoi. Nos schémas, on dessinait des trucs sur les tableaux à la con, pont à la con, break qui fait chier, tout ça. Et mais sauf qu'ils savaient à quoi ça correspondait, où ça commençait, quand ça finissait et ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Donc là, ça a été le début de tout.
Est-ce que c'est là qu'est née l'aventure créasique? Ou ça,
ouais,
c'est plus tard?
Ouais, ouais, c'était dans ces périodes-là, ouais, voilà, on y était là, ouais, complètement, avec Patrick Levanier, mon collègue, on a monté Créasic, là, et au départ, on errait un peu à droite à gauche, dans quelques petits locaux, ou carrément dans l'appart de Patrick, je me rappelle très bien. Et puis l'enfer total, parce qu'il y avait une demande de malades, quoi. Les jeunes étaient déchaînés. Et donc après, il y a eu la ferme des Rivaudières qui a été retapée. Et puis voilà, après on est resté un bon paquet de temps, puis me voilà arrivé aux 40.
Et alors, au moment où tu as lancé justement donc Créasic, ça venait combler un manque qu'il y avait ici à Laval. Finalement, alors, c'était la première fois qu'il y avait une proposition comme celle-ci.
Ouais, c'est vraiment avec Patrick qu'on a fait ça. C'est moi, je faisais du rap, je bossais avec des mômes, je faisais de l'animation au départ. Donc entre deux sorties à la plage et du foot en salle, il y avait des rappeurs, donc pareil, je les prenais aussi. Et je leur disais, ouais, venez, on va dans le studio, on enregistre ça, etc. Et quand il y a des petits lascars de banlieue qui se mettent à repasser leurs fringues, à répéter pour faire la scène, même si c'est dans une salle des fêtes à la con et tout, c'était une super réussite, ça, c'est vachement bien. Et Patrick faisait la même chose de son côté, lui, en mode animation aussi. On s'est dit, on va faire ça ensemble et puis on va y aller, quoi.
C'était en quelle année que ça a commencé tout ça?
Moi, je suis sorti de l'armée en 91, ouais, 92, 13, par là, là. On faisait déjà un petit peu ça. J'ai pas mal aidé des potes aussi dans les groupes de Fabric Trap d'Orchus, tout ça. Il y avait pas mal de groupes où il y a des potes qui galéraient un peu en batterie. Donc je leur filais quelques petits trucs, quoi, parce que bon, je m'en sortais plutôt pas mal. Et puis, voilà, après, il a fallu manger, donc animation, payer les steaks. Et du coup, 91, 12, 13, par là, ouais.
Quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a eu un tournant décisif qui a changé ton rapport à la musique ou même à la transmission?
Non, parce que j'ai toujours fait de la même façon, je n'ai jamais changé. Vous pouvez brancher tous les mômes et tous les gens avec qui j'ai bossé. C'est toujours pareil, j'ai un système qui est très très simple en fin de compte. C'est les gens ont mon contact par de qui de droit, voilà, de ci de là, ils viennent. On commence toujours par boire un café et discuter. Et t'écoutes quoi? Et on fait qui? On fait quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ton projet? Tu fais, ah ouais, quel niveau t'as? Ouais, tu joues ça? Fais-moi écouter des trucs. Le café Cosette, comme j'appelle. Et à partir de là, tout se met en place. Tu calibres ton intervention derrière, quoi. Si c'est des mecs qui ont un IV ou des super débutants, avec aussi des statuts sociaux différents aussi, des jeunes, des 3-8, des bosseurs, des travailleurs, des pères de famille, des divorcés. La musique, c'est surtout pour la création, parce que je ne travaille vraiment que la création. C'est avant tout des émotions, quoi. Donc les émotions, tu les vis dans ta vie de tous les jours. Donc ça, c'est super important de comprendre ce qu'il a dans la tête, le mec, le groupe, la nana, peu importe. Et à partir de là, je pense que tu fais du bon boulot, parce que tu vas vers ce que tu peux tirer de meilleur de cette personne, quoi, en fonction de tous ces paramètres. Et ça a donné des résultats qui ont toujours bien fonctionné, donc je suis content.
Thès, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, et pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un clin d'œil, un souvenir qui revient. On est en 2009 avec Sling 69 et ce morceau qui a pas mal tourné par ici. Écoutez.
No!
Vous écoutez toujours le grand format de l'Agité du local, votre émission quotidienne sur l'autre radio 101.7 à Laval et 107.9 à Château-Gontier. On est toujours en compagnie de David Tessier, alias Tess. Et alors, en introduction de notre échange, David, j'ai utilisé le mot passeur. Qu'est-ce que tu penses, toi, avoir transmis depuis toutes ces années? Plus que de la technique, tu parles d'envie et de la manière de la partager, cette musique.
La passion. Il y a une jeune fille aussi, pendant une expo punk, là, qui m'avait dit, toi, t'es un trait d'union. J'ai adoré ce terme, un trait d'union. Me voilà, trait d'union. Et oui, complètement. C'est-à-dire que là, le principe de la création, c'est terrible, parce que du coup, tu fais encore une fois ce que tu veux. C'est tellement plus passionnant que de refaire la musique des autres, comme je dis, hein, voilà, tout en la respectant, bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Il y a vraiment une transmission de passion et de se dire qu'on peut, on peut y arriver à n'importe quel niveau. Encore une fois, l'exemple du petit piano, de la petite nana qui va faire son morceau de piano pour sa mamie le dimanche, jusqu'au groupe qu'on va préparer pour les transmusicales, ou un festival, ou un clip, ou peu importe, quoi. Ou du studio. Mais avant tout, c'est vraiment d'y mettre tout ce qu'on a, quoi. Donc là, pareil aussi, il faut calculer vraiment les choses en fonction de d'où ils en sont. Moi, je bosse souvent avec des personnes qui tapent leur 8 heures de taf. Voilà, moi, je sais bosser que à fond et tout le temps. Donc, quand ils sortent de leur 8 heures de taf, ils viennent prendre 2 heures de stage commando, là. Quand je leur dis qu'on commence à me détester, c'est bon. C'est que ça marche, c'est que ça fonctionne. Voilà, c'est un peu ironique, mais voilà, ça reste vraiment très, très cool, c'est une image. Je deviens très, très vite, et à chaque fois, il y a une notion d'amitié, ami avec les gens avec qui je bosse, quoi, et ça reste très longtemps après, quoi. Là, tous les gens que je connais, c'est tous des potes, quoi.
J'aime beaucoup recevoir dans cette émission des gens passionnés pour qui ça transpire. Et à la fois, je me dis que ça reste toujours quelque chose d'impalpable quand on vit de sa passion, d'un métier passion. Est-ce que toi, tu te souviens d'un moment où tu t'es dit « là, je suis vraiment à ma place » ou c'est quelque chose que tu cherches encore ?
On n'est jamais à sa place. Mmh. On n'est jamais vraiment à sa place. Si t'es à ta place à un moment... Ben, tu t'arrêtes, quoi. Il n'y a plus rien, surtout pour ce qui est de la musique. Il y a une remise en question qui est permanente, surtout avec la création. C'est là où c'est génial. C'est que les gens, je leur apporte énormément en termes d'expérience, technique, etc. Mais je me nourris d'eux, mais d'une force, quoi. Leurs aventures sont émotionnelles, en termes créatifs, c'est incroyable. Donc, il y a un petit côté un peu voyeur, au sens figuré du terme, bien sûr. Où je suis obligé de m'immiscer avec eux dans leur monde pour comprendre comment ils fonctionnent et arriver à tirer le meilleur. Pour moi, je ne comprends pas comment on peut faire autrement. Alors, c'est pas la meilleure méthode, mais je pense que c'en est une bonne. Parce que du coup, tu vois, c'est je ne vois pas comment faire. Prends ton bouquin, je 38, on va faire du rock. Wow. Oui, peut-être, mais pas moi. Pas moi. Donc là, c'est vraiment rentrer dans l'univers des gens. Ça, c'est vachement important.
Est-ce que rentrer dans l'univers justement des gens que tu accompagnes, ou même le fait d'enseigner, de transmettre, ça a transformé ta façon de jouer, ta façon de vivre la musique à certains moments, ta façon de ressentir certains styles musicaux qui n'étaient peut-être pas forcément ceux que tu aimais a priori, puisqu'en fait toi tu navigues entre énormément de
styles. Ouais, il y a plein de styles, donc quand je dis je me nourris d'eux, c'est un truc de fou. En 30 ans il y a eu 3 générations, là, ça a été terrible, j'ai pris de tout, et je m'enrichis et je me forme aussi, parce que du coup pendant ce fameux café Cosette, il m'amène des titres, des artistes que je connais pas. Ça peut aller vraiment des trucs assez rock. Il y a la période métal avec l'âge d'or, là où j'ai eu tous mes sauvages, s'ils se reconnaissent. Des bisous à tous. Et voilà, c'est parti sur le hardcore après, jusqu'à un Pierre Bouguet qui est venu et qui m'a dit « Salut Tess, moi je vais en stop au Népal ». J'ai dit « Tu m'intéresses, assieds-toi, on va prendre un café ». Voilà, et c'est un truc de dingue, parce que c'est un mec extraordinaire aussi. Donc c'est oui, je me nourris d'eux, et puis je m'enrichis d'une force, quoi, à plein de niveaux, quoi, humainement et musicalement, bien sûr. Donc ça ne s'arrête jamais. J'aurais bien vivre 3-4 vies pour pouvoir continuer, voir jusqu'où ça peut aller, pour découvrir peut-être des choses qu'on ne soupçonne pas. Mais non, il faut bien sûr raison garder. Et là, ouais, en ce moment, c'est ça. Il y a tellement de styles d'artistes, et surtout avec l'avènement d'Internet, quoi. Alors, ça a son côté obscur, on est bien d'accord aussi. Mais voilà, il y a moyen de découvrir des choses incroyables. Je pense qu'il y a des millions et des millions de gens qui ont un putain de talent et qu'on ne soupçonne pas.
Si on devait raconter l'histoire de la scène musicale lavalloise, qu'est-ce qui la rend unique selon toi ? Je la trouve assez dense, riche, avec une diversité de propositions. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire depuis toutes ces années que tu as un regard dessus ?
Y a toujours eu, à tous les stades de ce qu'on peut faire dans la musique, entre la répétition, l'aide à la création, la diffusion, les organisations de concerts, il y a toujours eu des assos et plein de gens à tous les niveaux. Je pense à Paulo Lemoigne avec la Fourmi Rouge. À l'époque, voilà, Christophe Chevel qui est arrivé, qui a formé tellement de mecs en son. Moi, j'ai fait mon petit boulot aussi. Et on est tous en osmose, on se connaît tous. Donc, on leur a apporté un petit tapis rouge, je pense, qui était vraiment cool. Le bar des artistes à la grande époque aussi, qui est la fosse maintenant, qui continue. Incroyable. Je suis vraiment excessivement ému à chaque fois que je passe devant. Les petits gars de la fosse, là, qui continuent avec Léo Boufflet, qui fait des progrès de malade, d'une qualité incroyable. Tout ça, c'est cool parce que ça perdure. La transmission, elle est là aussi. Nous, on a amené notre truc, on continue à le faire du mieux qu'on peut, mais on vieillit. Donc, savoir que tous ces jeunes-là, Amaury Sauvé, qui a un studio de malade aussi, avec la Pierre Studio, qui est incroyable. On a des artistes qui tournent à l'international maintenant, qu'on a biberonné quand ils étaient mômes. Et puis, ben, ça, on s'est dit, voilà, on a un petit peu participé à ça. Donc, on est assez fiers de ça. Mais c'est un travail d'équipe, quoi. Et donc, cette scène, elle a pu vraiment se développer grâce à tous ces gens-là, quoi. Et non seulement ceux qui ont joué et qui, maintenant, continuent sous d'autres formes, avec du studio, de l'accompagnement aussi. Il y a plein de choses. Vous, bien sûr, l'autre radio, Nico Moreau, qui est arrivé là, qui ne connaissait personne. J'ai dit, viens, Pépère, je vais te présenter des potes. Et puis, bah, il a fait son trou là-dedans et il a avancé à fond dans tous les coins aussi avec tellement de gens. Il a tellement aidé, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi. Donc, il y a une très, très belle scène musicale qui a toujours existé. Mais voilà, on peut dire, ça sent un peu pédante ou pas, grâce à nous tous. Et ça, c'est chouette.
Toi qui as traversé plusieurs époques, qu'est-ce qui a changé dans la manière de monter un groupe aujourd'hui ? Tu sais, tu parlais de l'évolution aussi d'Internet. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ?
Oui. Alors oui, sur la forme, ouais, sur la forme, bien sûr. Bah, bien sûr. Ouais, Internet, voilà, les mecs peuvent faire du son. T'en as un à Katmandou, l'autre à Londres, et puis un à Rueil-Malmaison. Ils peuvent faire de la zik ensemble. Voilà, ils s'envoient des sons, ils bossent par Internet. On n'a pas encore les répètes avec les avatars. Ça, je serais curieux de ça. Si ça pouvait se mettre en route, ça pourrait être vraiment terrible. Il y a des délais de latence, j'imagine, qui seraient compliqués. Mais bon, bref, voilà. Après, on reste sur la même formule. On a des gens passionnés qui ont envie de vivre une aventure en groupe, ensemble, sous telle ou telle forme. Moi, j'ai bossé pas mal de rock, on va dire, de manière générale, mais tellement d'autres esthétiques aussi. Il y a certaines que je n'aborde pas parce que je ne maîtrise pas. Donc, tout ce qui est jazz, rap. Et encore, le rap, j'ai bossé avec beaucoup de rappeurs quand même. Les rythmiques, les placements, il y en a quelques-uns qui sont venus pleurer dans mon local. Ouais. Ils se sentaient les rois du monde et qui sont repartis la queue entre les pattes. Mais bon, voilà, c'est pour leur bien aussi, quoi. Être capable de faire deux fois la même prise de voix, etc., quoi. Mais oui, donc, il y a plein de gens passionnés qui continuent à le faire, à monter des projets, à créer. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, les formes, bon, bien sûr, elles évoluent. Donc c'est plus facile. Après, il ne s'agit pas de faire le vieux con, c'était mieux avant, c'est super maintenant, je m'en fous un peu de tout ça. On vit avec son temps, on avance. Voilà, je ne suis pas un geek, mais voilà, j'ai un portable, je bosse avec un Cubase, etc. Donc je me colle un petit peu au truc, mais en minimum syndical, quoi. Après, c'est vraiment le fond qui m'intéresse, quoi. C'est surtout ça, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire et pourquoi tu as envie de le faire ? Qu'est-ce que tu racontes dans ton texte, etc., etc.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on construit un groupe musical, on se pose aussi la question, si on veut monter au niveau professionnel, de la rentabilité. Y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent seuls sur scène parce que plus on est nombreux sur scène, plus ça coûte cher. C'était déjà le cas avant ou c'est quelque chose des questions qui se posent plus aujourd'hui ?
Ouais, il y avait peut-être moins de contraintes pour pouvoir jouer, un petit peu plus de festivals, de bars qui permettaient aussi de jouer, etc. Voilà, donc maintenant, voilà, je ne fais pas le topo sur la culture un peu désastreuse du moment, avec on sait bien qui a bien foutu la merde. Et puis voilà, donc ça devient compliqué, effectivement. Donc Mais c'est un truc que je conseille au groupe aussi, moi, de pouvoir décliner aussi maintenant des formules acoustiques. Alors, selon les styles, bien sûr, il y en a certaines, c'est, tu peux pas, hein, c'est hardcore, acoustique, et encore. Mais ouais, être capable de décliner ça à deux, à trois et en full band, quoi, et pour essayer d'avoir le plus d'accès à des dates, parce qu'effectivement, maintenant, il y a des salles, des bars qui peuvent plus prendre du full band ou d'autres que de mecs, etc. Donc, c'est bien qu'ils puissent décliner ça, ouais. Avec Archimède, on avait ça à l'époque, ouais, ça jouait à deux, à trois et en full band. Donc ça pouvait jouer n'importe où, quoi. Mmh. Et ouais, même à un niveau amateur ou amateur éclairé, on leur conseille ça. Il faut s'adapter, hein, de toute manière, s'adapter puis faire du mieux qu'on peut. Quoi.
En tant qu'auditeur, notre consommation de la musique évolue via les plateformes, mais la manière de faire de la musique évolue aussi.
Il y a des bécanes dont il faut se servir, mais il faut qu'à 81% minimum, ça soit les personnes qui jouent et qui interprètent, quoi. Voilà, de plus en plus maintenant sur les lives, il y a des inserts de que tu peux envoyer en façade et les artistes jouent par-dessus. Il faut garder le pourcentage 80-20, mais dans le bon sens. Pas 20 où tu joues et 80% de bécane, et... non, inverse, bien sûr. Et puis, on vend ça, donc moi je suis toujours un peu artisan dans mon coin là-bas et je me sens pas très affecté par ça, puisque je me fous de savoir si ça va marcher, si tu vas cartonner, quoi que ce soit. Mets-y de la passion, prends du plaisir. Prends du plaisir à le faire, c'est ça le plus important, ça va t'aider à te réguler dans la life. Et puis après, si tu t'acharnes sur le projet, bon bah au bout d'un moment, selon les talents, il se passe des choses, quoi. Je repense au Sling 69, Birds in Row maintenant, bon bah voilà. Et bon, bah, 14, depuis leur 14 balles, ils n'ont jamais dévendé, quoi. C'est sous une forme, sous une autre, ils ont du putain de talent. Donc, résultat des courses, c'est des bruitasses, quoi. Et ça fonctionne. Et je leur fais des bisous.
Qu'est-ce que la scène t'a appris sur toi-même, si cette question t'évoque quelque chose?
Ah bah qu'il ne faut pas monter en ayant bu des coups. Non, bah écoute, sur moi-même, je ne sais pas. Ça m'en apprend toujours, parce que tu as toujours des vibes qui sont un peu nouvelles à chaque concert. Il se passe toujours des choses. Voilà, le live, ça trahit pas. Hein. Là, on est loin de l'IA, quoi. C'est, tu joues, donc tu vas te planter, tu perds ta baguette, tu ceci, tu cela... ça va finir en baston entre le chanteur et le bassiste. J'ai eu tellement de trucs dans tous les sens que... Et encore, je crois que je suis pas sorti de l'auberge, hein. Il peut toujours se passer des choses. Donc c'est toujours passionnant, en fin de compte. C'est toujours passionnant, il se passera toujours des choses, quoi. Tant qu'on bossera avec beaucoup d'humains et un peu de machines.
Dans tous les projets que tu as montés ou auxquels tu as participé, qu'est-ce qui compte le plus peut-être pour toi? L'instant du live, le travail en répétition ou le lien humain, ou c'est un ensemble? Je crois que le lien humain...
Le lien humain, il n'y a que ça. C'est ce que, sinon, je me contredirais un petit peu. Mais après, on n'est pas peu fiers de se dire on a participé à tel ou tel projet. Voilà, y a la petite Céline Royer aussi, qui est lighteuse là, de Beyoncé, de toutes ces grosses stars-là, Lady Gaga. Et puis, on l'a eu dans le local... Donc, on va dire qu'on a participé à 0,00001% de tout ça, mais c'est pas l'objectif recherché, c'est ce que je dis à tous les groupes. Prenez du plaisir, faites-le vraiment sérieusement, comme une passion, et puis après, on verra, quoi. Mais avant tout, kiffez, quoi. Donc, c'est important de pas chercher la notoriété ou tous ces trucs-là, quoi. C'est le lien humain. Moi, c'est tout ce que j'ai gardé, là, tout... Enfin, c'est pour ça que je me fais arrêter un peu souvent tous les 2 mètres dans la rue. Ah, t'es ceci, ah, t'es cela. Je suis très fier de ça, en fin de compte. Plus que s'ils ont percé dans tel ou tel style. C'est parce qu'on a gardé une amitié sincère et profonde. C'est très, 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 très grisant et très, très plaisant. Donc l'humain, ouais, l'humain avant tout.
Les artistes racontent toujours quelque chose de notre temps, de notre époque. Je trouve que c'est un marqueur important pour comprendre les enjeux actuels, les préoccupations principales. Ah, qu'est-ce qu'aujourd'hui la musique raconte pour toi, de notre époque,
les mêmes misères que, entre guillemets, que souvent, enfin misère, il y a des textes qui sont quand même relativement cool, où il y a des gens qui chantent des très belles choses, émotionnantes, mais il y a souvent quand même, j'ai souvent rencontré des gens qui souffraient, quoi, et qui exultaient avec la musique. Donc voilà, là je bosse avec une association qui s'appelle le Collectif Hors Pair, c'est une tuerie, on est en train de préparer un petit album pour les Chito Maricou, là, et voilà le lien. Et je continue avec chacun, presque en individuel, à faire des projets solo aussi. Et c'est... Je pense aussi avec Lulvi, là, c'est un transgenre qui est adorable, qui fait des textes incroyables aussi, et qui raconte ses galères, quoi, de môme transgenre et tout. Et donc, voilà, c'est effectivement, ça décrit... ça peut aller de la personne qui s'est fait plaquer par sa mec ou son mec ou sa meuf, etc. Et tout style confondu. Moi, je suis content parce que j'ai toujours presque bossé à égalité avec les filles comme avec les gars. J'ai beaucoup, beaucoup de filles dans ces 30 ans de boulot là où cette sensibilité me touche aussi. Ouais. C'est vraiment différent. J'ai un petit côté féminin malgré mes 103 kilos et etc. Mais ça me touche beaucoup, quoi, parce que du coup, il y a une sensibilité qui est extra. Et tout style et tout talent confondu, je m'en fiche de ça. En fin de compte, c'est vraiment l'émotion que ça suscite, quoi. Et c'est vraiment cool.
Sur tout ton parcours, il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier?
D'être toujours là. Ouais. Et de continuer à faire ce que je fais, ouais. Ouais, de ne pas avoir lâché l'affaire et d'avoir peut-être, on va dire, amené un petit peu cette idée d'accompagnement avant l'heure, quoi. Voilà, on était un peu précurseur avec ça, puisque on l'a fait il y a longtemps. Maintenant, c'est très très bien. Il y a plein de gens qui s'y collent et qui amènent leur expérience, leur talent pour accompagner d'autres groupes ou d'autres artistes, voilà. Mais sur la méthode, ouais, c'est... Je suis assez fier de cette méthode-là, parce qu'en fin de compte, je ne connais pas grand monde qui le fait, en fin de compte. C'est une immersion à chaque fois, quoi. Donc souvent, à la fin des séances, c'est les mecs qui me disent « on va s'arrêter, là, il faut que je rentre manger chez moi. » Ah bon ? Ah merde, il est montré. Ah d'accord, il est 23h. Et voilà, et je peux très vite me... Donc ouais, cette méthode, elle est là, elle fonctionne bien, mais il faut avoir envie de la faire. Hein. J'y ai donné de ma personne aussi, beaucoup. Donc, mais j'ai pu le faire et gagner aussi gagner une certaine stabilité grâce à ma chérie, qui est la délicieuse mère de mes enfants, qui m'a aidé, puisque du coup j'ai réussi à avoir une vie de famille aussi, parce que quand on s'investit comme ça, on bosse à pas d'heure, c'est n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc ça m'a énormément aidé à me stabiliser et être toujours là, on va dire. Donc ça, c'est important aussi d'être aidé, ça se fait pas comme ça. Encore une fois, travail d'équipe, toujours, toujours. Jamais tout seul dans son coin, c'est moi le roi du pétrole. Non, non. On fait des belles choses, mais grâce souvent à pas mal d'autres personnes derrière. D'ailleurs, je cite toi donc Claude Renon et Christophe Chevel qui bossent avec nous au DMAC au 40 et qu'on fait un boulot et qui font encore un boulot. Enfin, qu'on fait, je parle pour Claude, parce qu'il va à la retraite. Les bisous, mon Claude. Et Christophe qui est toujours là, qui est toujours là partout, lui. Il est là partout, tout le temps. Donc il faut qu'il lève le pied aussi. On a convenu tous les deux, on a eu des petits problèmes de santé tous les deux. Peut-être qu'il va falloir qu'on lève le pied un peu. Donc on apprend à faire ça. C'est dur, mais on y arrive.
Pour terminer, on est dans une époque où il y a un rapport à la productivité, l'efficacité permanent, un rythme qui va très très vite. Si tu avais, toi, un mot pour résumer ce que c'est la musique pour toi aujourd'hui, sur toi, ta manière de la vivre et de cette place justement qu'elle prend dans une société qui se construit comme ça aujourd'hui.
La notion de productivité, elle va rentrer quand tu passes du côté pro avec Archimède. Voilà, j'ai bien vu comment ça se passait. J'ai ouvert mes yeux, mes oreilles et pareil, encore une fois, je me suis formé. J'ai moult appris. Et merci aux frangins qui nous ont emmenés avec eux à l'époque. Et voilà, c'est... Moi, je travaille, si tu veux, avec le milieu amateur éclairé, où je vais les emmener jusqu'au plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours à travailler dans tel ou tel boulot pour payer les steaks, comme je dis. Et on va tirer le meilleur de ce qu'on peut faire avec eux. Et si on se voit une fois tous les deux mois, on se verra une fois tous les deux mois, je lâche pas l'affaire... Venez, à partir du moment où les gens sont dans mes petits papiers, moi, il n'y a aucun problème, quoi. Donc, on prend le temps de le faire et on se fout de savoir si ça va être productif ou pas. L'idée, c'est d'arriver à... Enfin, productif dans le sens où pas l'exploitation de leur création pour faire du business, mais productif plutôt dans le sens où on va arriver à mettre une petite demi-heure de show en place pour les auteurs-compositeurs, sortir un petit EP, 4-5 titres... Et on prend le temps de le faire. J'ai vu sortir des EP comme ça sur 3-4 ans. Mais les personnes, à chaque fois qu'elles viennent, elles me disent, elles sont contentes de venir. Et je leur dis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, mais c'est cool. Quand je vais là, ça me fait du bien. Moi, quand je vois les gens sortir de mon local avec une grosse banane, eh ben, je suis payé. Voilà.
Et alors, Tess, c'est quoi la suite pour toi ?
La même chose, musique. Toujours, le nez dans le guidon, avec quelques petits moments pour souffler et prendre soin de soi. Voilà, on va faire gaffe quand même un petit peu à nous. Ouais, ça, c'est ça. Je commence à prendre soin de moi maintenant un petit peu plus. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup donné. Je donne encore beaucoup, mais je lève le pied un petit peu. Donc, on m'a appris ça. Donc, je suis à l'écoute toujours, en mode éponge. Donc, mais on continue.
Ben merci, David.
Merci à toi.
Pour ce moment et pour tout ce que tu as transmis ici et ailleurs. Et c'est le grand format dans la JT. La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. Merci à Joël, le programmateur de l'autre radio, qui chaque jour permet le podcast et la rediffusion de cette émission. Ça continue ici, sur les ondes de l'autre radio. Par exemple, votre soirée commence dès 19h avec Dance Hall Social Club et son Club Oldies, des sucreries musicales du passé à savourer sans modération. Ensuite, à 20h, restez bien à l'écoute, c'est Tempus Fugit en version spéciale pour la dernière de la saison. 4 heures d'émission consacrées à l'année écoulée avec presque uniquement des artistes, des albums et des titres qui n'avaient pas encore trouvé leur place dans les playlists précédentes. Et vous retrouverez toutes les rubriques habituelles, évidemment, l'autre pépite, l'autre actu, l'autre croc, l'autre père, mais en double dose, évidemment. Un petit coup d'œil maintenant très rapide sur le week-end, samedi à 10h, ce sera Alors on joue, dernière émission avant les vacances. Alors toute l'équipe a décidé de jouer. L'émission vous propose donc des idées de jeux à emporter pour cet été. Rock Dream, ce sera à 13h samedi. Ce sera un focus sur l'artiste Richie Havens. Dès 14h, on sera en direct du festival au foin de la rue, 4 heures d'antenne pour vous faire vivre l'ambiance de l'étang au plus près des festivaliers et les coulisses de cette édition. Ensuite, dimanche, on continue nos spéciales à partir de 10h30. Nous serons en direct de Planète en fait. Et puis bah, dès lundi, la grille d'été démarre sur l'autre radio avec deux nouvelles émissions à découvrir. Je vous en dis quelques mots. Le lundi à 19h, vous écouterez Jetlag, une émission de voyage signée Julien Sarty qui vous emmène loin sans plomber votre bilan carbone. Et le jeudi à 19h, le voyage radiophonique, ce sera en quelque sorte une heure pour rêver, explorer d'autres horizons sonores entre documentaires et immersion poétique. Voilà, c'est la fin de cette dernière agitée du local de la saison. Je voulais simplement vous dire merci, merci d'être là, de tendre l'oreille, de prendre le temps de ces rencontres, parfois minuscules, parfois plus grandes qu'on ne l'imagine. Moi, j'ai la chance de les croiser en studio sur le terrain, mais j'aime me dire que vous les rencontrez aussi à votre manière grâce à ce rendez-vous quotidien. Ces médias locaux, ces radios libres, ce sont des espaces précieux, peut-être un peu fragiles parfois, mais essentiels. Alors, si vous le pouvez, gardez un œil, une oreille attentive pour ces endroits rares qui racontent vos territoires, vos histoires et qui continuent à faire exister d'autres façons de voir le monde. On se retrouve en septembre, ce sera le retour de votre émission quotidienne. D'ici là, emportez un peu de tout ce qu'on a partagé cette saison, les mots, les rires, les silences aussi. L'été sera long, l'été sera bon, alors plus que jamais, s'il vous plaît, ne manquez pas une opportunité de faire le bien.
Oh, c'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.